Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. On a un petit peu de retard sur le programme, mais c'est pas grave. On va tâcher de rattraper ça. Il est 17h35 passé. On est en direct ici au MIPIM. Première journée intense, hein, et heureusement, on a un temps clément. Donc on va pouvoir tout à l'heure tranquillement se reposer. N'hésitez pas à liker, à commenter bien évidemment l'ensemble des émissions. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir de l'accueillir sur le plateau. On l'avait déjà observé. On suit d'ailleurs toutes ces rapports, notamment le rapport sur l'hébergement d'urgence qui avait été mené, ainsi qu'une tribune qui fait l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Il est député de la première circonscription de l'Indre et vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, c'est François Jolivet. Bonsoir François Jolivet.
Bonsoir et merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous, je suis ravi de vous voir.
Plaisir partagé.
On va commencer par une première, un premier commentaire sur cette tribune que j'ai lue attentivement. Alors je ne vais pas lire, la relire dans tout son détail, mais d'ailleurs je ne sais pas si on peut la retrouver textuellement
on
sur votre site.
On peut la retrouver.
Extrêmement intéressant. Je voudrais qu'on reprenne un peu les têtes de chapitre et qu'on fasse un petit peu le pitch de cette tribune que je trouve, je vous le dis très franchement, courageuse dans sa forme.
J'espère qu'il y a un peu de fond.
Et sur le fond, étayé pour une raison simple, c'est qu'il faut rappeler à tout le monde que vous êtes un professionnel de l'immobilier.
Je connais bien ce métier.
Ah oui, vous avez dirigé un office HLM, voilà. Donc vous maîtrisez parfaitement le sujet. Non, mais c'est intéressant parce que sur la forme, elle est courageuse dans l'expression, et sur le fond, vous l'étayez puisque on sent que vous avez déjà vécu ce genre de situation et que vous connaissez le système. Vous parlez du caractère anxiogène dans un monde incertain, on pourrait même dire de permacrise, qui rend les Français un peu moroses, qui ont peur, et que du coup, le toit, le logement devient un élément de sécurité pour la famille. On le voit dans le comportement. Le fait de se loger est un marqueur lié à l'ancrage en termes de sécurité et de se protéger, surtout quand on est, par exemple, propriétaire. La deuxième chose, c'est... Je vois le titre que vous avez même surligné. « Nos villes découvrent le silence assourdissant, celui des gros marteaux-piqueurs, l'immobilier... » Alors là, j'aime beaucoup la formule, est en train de s'arrêter en France. La crise vécue est certes inédite et inconnue, mais était prévisible. Elle prend ses racines dans des injonctions paradoxales, endogènes et exogènes, qui s'affrontent. Là, ça mérite explication.
Bien, endogène, et d'ailleurs c'est la raison de ma présence au MIPIM, la remontée des taux d'intérêt ont fait que la capacité d'emprunt des acheteurs a été limité. Exogène, on a des injonctions paradoxales parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que les banques ont une stratégie, celle de préserver le taux d'effort et d'appliquer les règles du Conseil national de sécurité financière. Ensuite, nous avons bien évidemment les taux d'intérêt qui remontent, on va dire que ça c'est exogène. Et puis on a un système propre à la France et qui est unique, c'est que depuis 25 ans, les élus locaux et l'État ont une alliance silencieuse pour ne plus financer le logement social. On a inventé pour les organismes HLM un impôt HLM, si j'ose dire.
Vous parlez de la PEC ?
Je parle pas de l'APEC, je parle de la contribution au financement du FNAP.
Oui, très bien.
Et puis, ça c'était la première chose, l'État ne voulait plus donner d'argent. Et puis les élus locaux, qui avaient leurs contraintes particulières, se sont dit, j'en ai marre que les organismes HLM me demandent des subventions, donc on va inventer les opérations dites mixtes. Et donc on a vu surgir, sous couvert de la mixité sociale, des opérations se faire avec un tiers de logement social. Et d'ailleurs, on dit au promoteur, tu vendras à tel prix au bailleur que je te désigne. Un tiers de logements intermédiaires, on les appelait PLI à l'époque, maintenant ils s'appellent LLI. Puis il y avait un tiers d'accession à la propriété dans lequel il y avait 75% de Pinel. Et finalement, le promoteur, lorsqu'il faisait son opération, s'il était à 4000 euros le mètre carré de surface utile en prix de revient, et qu'il vendait 2500 euros à l'organisme HLM, eh bien, il reportait le déficit de l'opération HLM sur l'accédant à la propriété, ce qui faisait d'ailleurs augmenter son taux d'effort.
C'est clair.
Et quand on est avec des taux à 0, à 1 ou à 1,5%, tout va bien.
Oui, ça va, bien sûr.
Sauf que maintenant, ça se retourne. Nous avons été biberonnés au taux faible. Et d'ailleurs, tellement biberonnés que on s'apercevait que l'assurance d'essai était presque parfois plus élevée que le taux pratiqué de l'intérêt d'emprunt.
Absolument.
Et
ouais.
Puis l'assurance, par ailleurs, sur les impayés aussi, puisque les banques ne prennent plus d'hypothèques. Donc tout allait bien dans le meilleur des mondes. L'État ne mettait plus d'argent dans le logement social. Les promoteurs faisaient 53% en 2022 de la production de logement social dans notre pays.
Et ça arrangeait tout le monde.
Et ça arrangeait tout le monde sans qu'il y ait aucune ressource publique affectée.
Mais ça n'a pas suffi à l'État, ça, hein, apparemment.
Ben, l'État, en fait, il a d'autres contraintes. On est tous citoyens français, on voit ce qui se passe dans le monde, on n'est pas extérieur dans le monde. Quand on donne des sous à des pays qui essayent de se défendre contre une agression, il faut bien payer. Donc voilà, mais je n'oppose pas l'Ukraine au logement, mais ce que je veux dire simplement, c'est que l'État a plein de contraintes, surtout dans un pays comme la France. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, comme on n'a plus les opérations d'accession à la propriété qui finançaient les déficits d'opérations HLM, eh bien on n'a plus les logements sociaux. Et je pense que ça va poser un sujet de fond.
Est-ce que, justement, par rapport à ce que vous dites, c'est très intéressant, parce que sur la tribune sur laquelle vous décrivez en liminaire, effectivement, les problématiques dans lesquelles, je reprends même une phrase où vous dites que nous sommes en absurdistan,
hein,
carrément. Et là, vous mettez le point. Et c'est vrai, vous avez raison, parce que c'est tout à fait le cas. Et d'ailleurs, l'immobilier caractérise même assez bien ces injonctions qui sont absolument contradictoires et qui rendent même schizophrènes les élus locaux. À tel point d'ailleurs que certains sont dans une crainte, par exemple, de construire. Parce que souvent, vous savez, on fustige les maires dans le fait qu'ils ne signent pas suffisamment les permis de construire. Quand on voit les injonctions qui sont faites aux maires avec des réserves fiscales qui leur sont ôtées, finalement, de façon graduelle, on peut comprendre. 20 propositions, vous avez synthétisé, puisque ce qui est très intéressant dans votre tribune, c'est que vous avez vraiment synthétisé pour essayer d'être le plus proactif possible. Alors, je ne vais pas les égrener toutes, mais il y en a certaines que j'aimerais bien donner, notamment celle, la numéro 2, durant l'année 2024, permettre à tous les investisseurs de sortir de leur future succession les biens neufs qui auraient été achetés. Ça serait génial. Je m'inspire de l'amendement Balladur, voté très largement à l'Assemblée nationale à la sortie de la guerre du Golfe. Je ne me souviens pas, mais ça serait bien qu'on s'en souvienne. La crise frappant les promoteurs était identique à celle d'aujourd'hui. Cette mesure n'impacte pas les recettes de l'État de manière immédiate, contrairement aux pertes de TVA. Ça, on va dire que c'est du super concret.
Ben vous savez, moi, je suis le rapporteur du budget du logement et de l'hébergement à l'Assemblée nationale, et quelque part, je suis le rapporteur du budget du logement social et de la production du logement social. Quand on a 53% de la production 2022 qui est faite par les promoteurs, vaut mieux qu'ils vendent la partie accession à la propriété pour pouvoir sortir les logements sociaux. Et donc je pense que l'idée qui avait été développée par Balladur à l'époque était une bonne idée.
Et oui.
Ça ne coûte pas d'argent. C'est vrai qu'on peut dire encore c'est les riches qui vont faire ça parce qu'ils vont se faire du patrimoine, ils ne paieront pas d'impôts sur les successions. Et je serais tenté de dire, et alors ? Puisqu'il y aura 53% de logements sociaux produits.
Et oui. Alors, il y a la troisième qui est pas mal non plus. J'en ai sélectionné quatre. Généraliser le PTZ, ancien et neuf. Alors ça, vous allez vous faire des amis ici, ça c'est sûr. Sur tout le territoire pour les périodes 2024 et 2025, afin de ne pas casser, je précise bien, le rêve de l'accession à la propriété de tous les Français qui souhaitent s'engager dans un projet de vie, parce que briser les rêves, c'est renforcer les extrêmes.
Le logement, que vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, pour moi, c'est la première sécurité qui est apportée à une famille, parce qu'on ne peut rien envisager sans un toit sur la tête, sans avoir une porte fermée et sans avoir une adresse. Et vous avez des gens qui souhaitent s'engager. Et le prêt à taux zéro, dont j'ai été un des rapporteurs et ai demandé sa suppression à une certaine époque dans un mandat précédent, l'argument était de dire que les taux d'intérêt étaient faibles et que ça n'avait pas beaucoup d'utilité, si ce n'est de reconstituer un peu des fonds propres pour l'apport, pour le porteur de projet. Et quand on a des taux à 4% avec 0,8 d'assurance, etc., plus 0,4, ben ça fait 5,5, donc ça a toute son utilité. Et moi, ce que je souhaite, c'est que notre pays, on est dans un beau territoire ici, nous sommes à Cannes, c'est un morceau de France, les problématiques de Cannes sont ce qu'elles sont. En revanche, ce que je sais, c'est que les Cannois, comme ceux qui habitent à Châteauroux ou ceux qui habitent à Paris, ils ne peuvent rien envisager sans avoir un logement. Et si on les déçoit il sera facile de les capter en disant, grâce à moi, il y aura des logements. Je pense que c'est le futur thème de campagne.
Absolument.
Je pense que c'est le futur thème de campagne électorale des prochaines présidentielles.
Merci. Merci, François, parce que vous avez mille fois raison. C'était exactement ça. Et c'est tellement vrai que, effectivement, certains partis, et je ne vais pas les nommer, aujourd'hui, ont commencé d'ailleurs à consulter très largement, et vous le savez, pour justement arc-bouter un des éléments fondamentaux du programme en question, les partis que je n'ai pas très envie de nommer, qui feront leur campagne.
Mais on peut dire que ce sont des partis extrêmes.
On peut le dire.
À droite et à gauche.
Et non seulement on peut le dire, mais on peut même aussi pointer du doigt des sondages qui sont de nature très inquiétante. Je prends la résolution numéro 11. Je rappelle qu'on peut avoir accès, bien évidemment, accès aux documents. Et si vous m'y autorisez, je le mettrai en accès podcast de l'émission. La partie numéro... Alors ça, j'adore. J'adore. Bon, si vous créez un fan club, j'en prends la présidence. Alors, conditionner les sites de l'ANA, donc l'Agence Nationale de l'Habitat. Alors là, c'est... Écoutez bien. Hein. Notamment MaPrimeRénov', pour ses propriétaires bailleurs, à l'obligation de soumettre à plafond de ressources et à plafond de loyer leur logement. En cohérence, ces logements sortiraient eux aussi de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. L'idée de supprimer un milliard à l'ANA est une mauvaise idée. Sans doute, y a-t-il d'autres endroits où trouver des économies? Et peut-être pourrions-nous sursoir à la suppression de la CVAE. C'est gonflé, hein?
Oui, bah écoutez,
vous êtes pas fait
la loi de finances. La loi de finances a été votée en 49.3. Je suis un député horizon de la majorité.
Chez Renaissance, je suis pas sûr que vous soyez fait des bons amis.
C'est pas très grave, parce que c'est pas normal que les gens dans une même majorité puissent avoir des avis différents sur certains sujets. Donc... Puis vous savez,
mais ça vous donne pas envie de quitter la majorité?
Non, pas du tout, parce que je pense qu'aujourd'hui...
De claquer la porte?
Édouard Philippe, aujourd'hui, est un homme qui mérite d'être soutenu, et je ferai en sorte de le soutenir. Maintenant, quand vous parlez de la sortie de l'IFI, en 2017, lorsque l'ISF a été supprimé et remplacé par l'IFI, j'avais déposé un amendement qui n'avait pas été retenu à l'époque, qui visait à sortir les logements conventionnés de l'ANA, c'est-à-dire les propriétaires privés qui avaient un logement social, donc avec une servitude d'intérêt général. Entre parenthèses, il y a beaucoup de contrôles aujourd'hui de Bercy sur les déclarations IFI.
Ah oui.
Et quand on a un logement pendant 30 ans conventionné ANA, c'est quoi sa valeur?
Mais oui.
Et puis, quand on a des Pinel... Et si on a
vous n'étiez pas pour, hein, l'IFI.
Voilà.
On est d'accord?
Non, on est d'accord sur ça.
Ouais.
Mais on pouvait déjà sortir les gens de l'IFI,
oui,
pour les logements conventionnés. Quand on a un Pinel et qu'on respecte les plafonds de ressources et les plafonds de loyer, et parce qu'on a un avantage fiscal...
Alors?
Eh bien, pourquoi ne le mettre? Ça veut donc dire qu'il y a une servitude d'intérêt général. Donc, pendant les 9 ans, eh bien, on pourrait très bien les sortir de l'IFI. Et puis, ce que je dis pour l'ANA, ben, je m'aperçois que le gouvernement a fait marche arrière, hein, puisqu'en fait, il ne supprime plus le milliard.
Bah oui.
Donc, la tribune a 15 jours. Et je sais qu'elle a été diffusée entre les membres du gouvernement et du Premier ministre. Mais moi, je me dis que le but du jeu, vous avez plein de propriétaires privés qui sont peut-être à l'IFI, qui ont des logements qui ne sont pas conventionnés, et de vous à moi je ne suis pas pour l'administration, je ne suis pas pour la vie réglementée. Ce qu'on sait, c'est que les observatoires des loyers, dont on dit tous à se gargariser que ça marche super bien, tous les pros disent que ça marche mal. Par contre, on pourrait dire à un propriétaire privé, tu demandes des aides de l'ANA, eh bien très bien, mais alors tu vas soumettre à plafond de ressources et plafond de loyer tes logements en contrepartie de l'aide publique. Et ça permettrait à des gens de pouvoir accéder à des logements dans des territoires avec un loyer compatible avec leurs ressources.
Alors, dernier point que j'ai relevé, dont je voulais vous parler là, c'est la loi SRU. Une loi fondamentale qui est quand même... Alors vous dites, hein, je vais faire rapide, toucher à la loi SRU est une erreur politique. Bon, déjà, hein,
je le pense.
Intégrer les logements intermédiaires dans le calcul des logements sociaux est une machine à punir les pauvres et à renforcer les territoires riches. Mais au fait, de quoi parlons-nous? Ce que vous dites. Une jeune femme de 40 ans, avec deux enfants, agrégée de physique, n'a pas les moyens de rentrer dans un logement intermédiaire. L'infirmière débutante, pas davantage. Le jeune professeur non plus. Le jeune agent de police, comme son officier supérieur, non plus. Pour ces Français, seul le logement social convient dans sa gamme, le PLS ou le PLUS. D'ailleurs, vous en parlerez. Peut-être pourrions-nous dire que lorsqu'un logement intermédiaire est construit dans une opération, il faudrait construire en miroir un logement social dans la même opération. Ça serait de la mixité. Mais seuls les logements sociaux compteraient dans le calcul de la loi SRU.
Oui, ben c'est mon opinion. Aujourd'hui, quand vous avez des communes qui, des communes qui sont carencées aujourd'hui en logement social, les services de l'État sont en train de pointer du doigt en disant on peut faire sans logement, vous me ferez sans logement sociaux. Entre parenthèses, les bailleurs ne sont pas toujours d'accord avec ça, les bailleurs HLM, d'en faire sans d'un seul coup. Mais il faut rattraper le retard. Et même parfois, le maire, il est d'accord pour avoir les sans logements sociaux pour ne pas payer l'amende. Alors la mixité sociale, le législateur, dans son grand courage depuis 30 ans, n'a jamais voulu le définir. Alors on sait en creux ce qu'il ne faut pas, à peu près pas faire, mais pour atteindre les quotas SRU, on peut quand même le faire. On est en absurdistan.
Absolument.
Et donc moi ce que je dis, et je pense que l'idée du Premier ministre de dire on va compter les logements intermédiaires dans le calcul SRU, je pense que c'est une erreur. Après j'accepte d'avoir tort, mais je pense qu'il serait mieux de dire à chaque fois qu'on construit un logement social, on met un logement intermédiaire en face. Ce qui permettrait sans doute d'améliorer la mixité d'occupation de l'immeuble. Et puis par ailleurs, en revanche, le maire, il faut qu'il ait quand même l'objectif de construire ses logements sociaux. Parce que son agent attaché territorial qui vient de recruter, il ne peut pas rentrer dans un logement intermédiaire. Mais bah, pas plus que la dame qui travaille dans l'EHPAD. Pas plus que le commissaire de police débutant à Paris.
Ouais, bah c'est
où le ministère de l'Intérieur réserve des logements sociaux pour pouvoir les loger, sinon ces gens-là, ils démissionnent de la fonction publique, parce qu'ils ne trouvent pas de logement à hauteur de leurs ressources.
Comme c'est le cas d'ailleurs dans le secteur privé,
n'oublions pas, et on a un truc quand même très important qu'on a beaucoup oublié, alors sans doute porté par quelques associations qui voulaient avoir un peu de présence dans la rue, on a beaucoup parlé de l'augmentation des loyers, mais je vais vous dire, on a inventé un truc qui s'appelle l'IRL, alors sauf depuis 2 ans, là où ça monte un peu, mais c'était l'indicateur ou l'indice qui n'augmentait pas. Par contre, les charges ont augmenté. Mais par contre, on n'a pas tenu compte de la monoparentalité aujourd'hui dans les logements. Pour chauffer un logement à 19 degrés, soit on a un salaire, soit on a 2 salaires. C'est les charges qui s'envolent aujourd'hui. Et moi, le taux d'effort, bien sûr que le loyer est important, mais il y a aussi les charges. Donc il faut faire baisser les loyers, mais pas baisser les loyers de la manière dont on le dit.
Vous faites partie de la minorité ?
De la majorité.
Quand est-ce qu'on vous propose le ministère du Logement, François Jolivet ?
Bon, certains en ont parlé, mais bon, j'attends pas ça pour ça. Vous savez que je suis bien trop libre.
Non, c'est pas la question. Mais ça serait bien, parce que si vous ne mettiez ne serait-ce qu'un cinquième des propositions, et je doute d'ailleurs qu'on vous laisse le faire, vous démissionneriez dans les 3 semaines qui suivent.
Ah non, parce qu'en fait, vous avez des idées qui progressent. Là, on a croisé un architecte avant votre émission. Moi, je suis favorable à la suppression des permis de construire, parce qu'en fait... Il faut arriver à construire un logement pour tout le monde et dans l'acceptation de tous.
Absolument. D'ailleurs, architecte, qu'on va recevoir dans quelques instants, c'est Philippe Chiambaretta qui va nous faire le plaisir. Et je suis vraiment désolé, on a un petit peu décalé l'entretien dans quelques minutes, dans quelques instants même seulement. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Un grand merci.
Merci
François
invité.
Jolivet. Je rappelle que vous êtes le député de la première circonscription de l'Inde. Il faut nous voir plus souvent sur votre programme, parce que là, on a détaillé. Je vous donnerai, vous inquiétez pas, les amis, je vous donnerai accès à cette tribune que vous pouvez retrouver sur le site de François Jolivet, de député, mais je le mettrai sur le podcast de manière à ce que vous puissiez le consulter. Je gage que nous nous reverrons pour en parler beaucoup plus. Merci à vous.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.